Vous écoutez RFI, 19h10, ici, à Paris.
Édition spéciale, élections allemandes. Philippe Le Caplain.
Un nouveau paysage politique pour l'Allemagne au soir des élections législatives anticipées. Un scrutin qui dote la première puissance européenne d'un nouveau Parlement pour affronter les défis qui ébranlent son modèle de prospérité et inquiètent sa population. Les électeurs ont voté pour l'alternance. Exit le SPD. La CDU arrive au pouvoir. L'extrême droite est en embuscade. Toute la question est de savoir si le nouveau gouvernement, qui sera forcément une coalition, se fera à deux ou à trois partis. RFI vous propose une première édition spéciale consacrée à ce scrutin avec ses envoyés spéciaux en Allemagne, que nous retrouverons dans quelques instants, et vos analyses et commentaires. Paul Maurice, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI.
Édition spéciale sur RFI.
Les bureaux de vote sont maintenant fermés et l'heure est au dépouillement. En attendant les résultats, il y a les sondages sortis des urnes. Voici donc le rapport de force électorale après ce scrutin auquel étaient appelés 59 millions d'électeurs, dont 20% se disaient indécis avant le vote. Alors la CDU, les conservateurs, arrivent nettement en tête avec environ 29% des voix. L'AFD, l'extrême droite, a environ 20%. SPD, les sociaux-démocrates qui géraient le pays jusque-là aux alentours de 16%, et les Verts à 13%. Les premiers enseignements, les premiers équilibres et vos premiers commentaires, Paul Maurice.
Ben, c'est effectivement un nouveau rapport de force, mais un rapport de force qui n'est pas surprenant. La première chose à dire, c'est que ces sondages sortis des urnes correspondent au sondage, la stabilité des sondages, pardon, qu'on voit depuis le début du mois de janvier. Donc on a une vraie continuité et il ne semble pas y avoir eu de révolution, de chamboulement de fin de campagne. La deuxième chose, c'est que les chrétiens démocrates à 29%, ça nous paraît beaucoup en France ou dans beaucoup de pays européens, qu'un parti conservateur de centre-droit fasse près d'un tiers des électeurs, mais c'est un faible score pour ce parti qui était habitué à l'époque d'Angela Merkel à des 40%, et on avait même dit que 33% en 2017, c'était un échec. Donc ce parti, qui avait certes échoué en 2021, parce que son candidat avait fait une très mauvaise campagne, fait un score qui est assez décevant. Friedrich Merz avait évalué son potentiel à 35%.
On va y revenir dans un instant. Attardons-nous pour l'instant sur le SPD, le plus vieux parti d'Allemagne depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, c'est clairement une débâcle.
C'est une débâcle et en même temps, le SPD fait son score des européennes de 2019. C'est-à-dire qu'on a une social-démocratie européenne en crise. Et on voit dans certains pays, en France, on se rappelle du score du Parti Socialiste à l'élection présidentielle de 2022. Donc on a finalement un SPD qui est en crise, mais qui maintient son socle électoral qui correspond au socle solide au-delà duquel le SPD serait vraiment en crise.
Autre perdant de ce scrutin, les Verts, alliés du gouvernement Scholz jusqu'à présent, ils sont dans une fourchette pour l'instant entre 12 et 13,5%.
C'est beaucoup et peu en même temps. C'est-à-dire qu'en 2021, ils avaient fait plus de 14%. Là, ils baissent. Pas tant que ça par rapport à d'autres parties de la coalition sortante, mais c'est finalement les Verts dans leur base électorale la plus élargie, ils n'élargissent pas leur base électorale et ils vont toucher, il faudra regarder les cartes, surtout un électorat urbain et éduqué.
Alors, revenons au grand vainqueur de la journée, c'est la CDU, 29%. Friedrich Merz va devenir le prochain Kanzler, c'est-à-dire le chancelier, et donc donner un coup de barre à droite dans le pays après l'ère du social-démocrate Olaf Scholz. Pascal Thibault, vous êtes au quartier général de la CDU, qui se trouve à Berlin. La victoire est nette, même si elle n'est pas autant que ce qu'a connu le parti par le passé, comme vient de nous l'expliquer Paul Maurice. Hein.
Oui, effectivement. Alors, bien sûr, ici, on a salué les résultats. On a applaudi chaleureusement à 18h les premières estimations lorsqu'elles sont apparues sur les écrans. Et bien sûr, Friedrich Merz, lorsqu'il a pris la parole une bonne demi-heure plus tard, il a aussi également été chaleureusement applaudi par les militants ici de la CDU. Mais effectivement, ce score, le deuxième moins bon de la CDU depuis la guerre, n'est pas exceptionnel. On est symboliquement sous la barre des 30%. Et les personnes avec lesquelles on peut parler, évidemment, se pose des questions sur l'avenir, sur la coalition, avec combien de partenaires qui pourra voir le jour après cette soirée. C'est aussi un petit peu le sens de cette première prise de parole de Friedrich Merz, qui bien sûr s'est félicité de son résultat, d'être en pole position, mais qui veut aussi souligner qu'il va falloir...
Ah, visiblement, on a un petit problème avec Berlin. Pascal Thibault, que l'on retrouvera dès que c'est possible, sachant que Friedrich Merz veut donner un coup de barre à droite, notamment en mettant fin à l'immigration clandestine, Paul Meurice de l'IFRI.
Alors, oui et non, c'est-à-dire que c'est pas une barre à droite qu'il met, c'est le parti qui avait fait une barre au centre avec Angela Merkel, parce que la CDU est traditionnellement un parti qui est un parti de droite conservatrice, qui va aller jusqu'au centre droit, mais qui est plutôt de la droite conservatrice. Angela Merkel avait recentré, elle avait siphonné en partie les sociodémocrates. Friedrich Merz va appliquer, selon l'air du temps aussi, ce qu'il pourra faire, mais il va essayer d'appliquer quelque chose pour se réapproprier les sujets dont l'extrême droite s'est faite le fer de lance, la question de l'immigration notamment. Est-ce qu'il est beaucoup plus radical que l'était la CDU dans les années 90? Je ne suis pas sûr, mais étant donné que ce thème est a été très présent dans la campagne, il peut aussi en sortir quelque chose de difficile qui peut jouer le jeu de l'extrême droite.
Retrouvons Pascal Thibault au quartier général de Berlin. On a rétabli la ligne. Vous étiez en train de nous dire comment les résultats ont été accueillis au siège des conservateurs.
Oui, effectivement, des résultats qui ont été bien sûr accueillis avec satisfaction, à la fois à 18h lorsque les premiers résultats sont apparus sur les écrans, et puis évidemment encore avec des applaudissements un peu plus nourris lorsque Friedrich Merz, le futur chancelier, a pris la parole une bonne demi-heure après la fermeture des bureaux de vote. Il s'est félicité de son résultat, mais il a aussi souligné que ça ne sera pas facile, notamment pour constituer une coalition, et que le monde n'attend pas. Je vous propose de l'écouter.
Nous avons gagné cette élection. Je suis conscient de la responsabilité qui m'incombe. Je sais que ce ne sera pas facile. Il nous faut le plus possible un gouvernement stable. Le monde autour de nous ne nous attend pas. Il n'attend pas le résultat de longues négociations pour une coalition qui n'en finisse pas. Nous devons rapidement être capables de travailler pour nos réformes en Allemagne, pour être présents en Europe et pour que le monde sache que l'Allemagne est de nouveau gouvernée de façon fiable.
Zuverlässig regiert. Friedrich Merz, donc, qui vient de s'exprimer devant vous, Pascal Thibault. Pascal Thibault.
Oui.
Beaucoup de bruit derrière vous. Friedrich Merz, elle se donne combien de temps pour dérouler le programme qu'il a promis aux électeurs, comme baisser les impôts pour les entreprises ou encore les contribuables les plus aisés?
D'abord, il faut constituer le gouvernement, bien sûr. On évoque peut-être la perspective de Pâques pour avoir constitué un gouvernement. Friedrich Merz veut aller vite. Il veut pas mal de réformes au niveau intérieur. D'abord, remettre l'Allemagne sur les rails en récession depuis 2 ans, avec un modèle économique qui est en panne. Des réformes importantes sont nécessaires. Le programme de la CDU prévoit notamment des baisses d'impôts très importantes pour les particuliers et pour les entreprises. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de migration. Friedrich Merz a fait des propositions très fermes pour lutter contre l'immigration illégale. C'est un dossier évidemment qui va jouer un rôle important. Et puis, on l'a entendu, Friedrich Merz veut que son pays soit de retour sur la scène internationale. Il reproche à son presque prédécesseur, pourrait-on dire, Olaf Scholz, d'avoir été trop peu présent en Europe et au-delà.
Paul Meurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI, est-ce qu'il y a du Trump chez Friedrich Merz dans la mesure où il veut lui aussi redonner sa grandeur au pays, lutter contre l'immigration illégale? Avec humour, est-ce qu'on peut parler de MAGA pour une sorte de Make Allemagne Great Again?
Alors, on pourrait dire faire de l'Allemagne effectivement à nouveau un grand pays, mais il n'y a pas du tout de Donald Trump chez Friedrich Merz, parce qu'il y a une tradition chez Friedrich Merz qui est celle de la démocratie chrétienne allemande. Et la démocratie chrétienne allemande, elle s'est construite dans l'après-guerre contre l'héritage du nazisme. Et c'est-à-dire que, même si on a eu quelques polémiques qui peut-être étaient plus importantes que ce qu'on a dit, on verra dans les résultats, mais Friedrich Merz a redit son souhait de ne jamais gouverner avec l'extrême droite. Donc, en cela, il n'est pas Trump. Sur la question de l'immigration, sur la question de l'économie, il répond à des vraies préoccupations des électeurs. La question économique est une préoccupation qu'on a moins entendue en fin de campagne, mais qui reste un le sentiment de déclassement des électeurs, le fait que l'économie allemande, alors même si elle reste très importante en termes de PIB, elle est quand même en déclin parce que certains secteurs pâtissent aujourd'hui d'une crise énergétique, d'une crise commerciale en lien avec la Chine, l'automobile, la chimie notamment.
Venons-en maintenant au deuxième de ce scrutin, c'est le parti d'extrême droite alternative pour l'Allemagne, l'AfD, aux environs de 20%, c'est 2 fois plus qu'il y a 4 ans, donc une très nette progression
Effectivement, en 2021, l'AFD avait perdu 1 million de voix par rapport à 2017, donc on voyait un parti qui avait perdu des électeurs. Là, on gagne en pourcentage, 2 fois plus, 20%, mais avec une participation qui est autour de 84%, c'est-à-dire qu'en termes de voix, c'est énorme. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'on voit que la mobilisation des électeurs, elle ne freine pas la progression de l'extrême droite. Parce que l'extrême droite, je regardais certains sondages publiés en sortie des urnes, l'extrême droite est le premier parti chez les jeunes. Et la plupart des électeurs nouveaux de l'AFD, 2 millions, 1 million 8 d'électeurs, viennent des anciens abstentionnistes, des anciennes personnes qui ne votaient pas. Donc ça joue en faveur de l'AFD et elle a su capitaliser ce moment de crise depuis 2021, guerre en Ukraine, crise énergétique, qui a vraiment frustré les Allemands.
Et puis il y a ces attaques et attentats meurtriers commis par des étrangers dans le pays au cours de ces dernières semaines. La dernière a eu lieu avant-hier soir, quand un jeune réfugié syrien a gravement blessé un touriste à coups de couteau dans le mémorial de l'Holocauste à Berlin. Ça a forcément pesé sur le scrutin et les résultats de l'AFD.
Ça a pesé sur le scrutin de l'AFD, mais en même temps, ça a pesé depuis le mois de décembre. On voit une légère progression. L'AFD est à 16-17% en novembre. Elle progresse après l'attentat de Magdebourg au mois de décembre. Et tous les attentats, malheureusement, il y en a eu de nombreux depuis. Il y a eu Aschaffenburg, il y a eu Munich, il y a eu, vous le rappelez, Berlin ces derniers jours. Ça n'a pas fait bouger l'AFD. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'arrivée massive d'électeurs pour l'AFD, en tout cas de ce qu'on mesurait dans les sondages. Ou alors, ils ont été tempérés par une augmentation aussi des électeurs vers les autres partis. 20%, c'est le score qui était mesuré pour l'AFD en fin d'année dernière, avant cette série d'attentats meurtriers. Néanmoins, ça a cristallisé les électeurs, ça les a attachés à l'AFD, alors qu'ils pouvaient considérer ce parti jusque-là comme un parti protestataire, où on y adhérait pour montrer son mécontentement. On va avoir de plus en plus d'adhésion au sein de ce parti.
L'AFD qui a bénéficié également du soutien appuyé pendant des semaines de l'entourage de Donald Trump, son conseiller Elon Musk n'a cessé de promouvoir la tête de liste du parti, Alice Weidel, sur sa plateforme X, un scrutin qui est donc regardé de l'étranger, comme par exemple d'ici, en France, Jordan Bardella, le président du RN, s'est exprimé tout à l'heure sur l'AFD. C'était au Salon de l'agriculture, au micro RFI de Raphaël Delvolvé.
Je souhaite que le peuple allemand reprenne le contrôle de son destin et je crois que le phénomène migratoire aujourd'hui et ce qu'il peut induire, on l'a encore vu ces dernières heures à Mulhouse mais aussi ces derniers jours en Allemagne, remet en cause aujourd'hui les grands équilibres des sociétés européennes, à commencer par la sécurité de nos compatriotes. Et il faut évidemment que tous les peuples en prennent conscience et c'est ce que je souhaite aussi au peuple allemand.
L'AFD qui s'est engagée, qui a fait le choix de la radicalité et ça paye, anti-wok, anti-féministe, anti-islam, anti-écologie, pro-russe pour ce qui est d'Alice Weidel.
Effectivement, ça paye, mais ça paye avec un plafond de verre, c'est-à-dire qu'on voit 20%, c'est énorme, mais avec cette ligne-là, l'AFD n'ira pas plus loin et surtout, elle n'ouvrira pas ses portes à une coalition. En étant sur cette ligne, aucun autre parti ne voudra gouverner avec elle. C'est important, 20% pour l'Allemagne, peut-être plus à l'Est, mais quand on regarde le RN en France, il est à 30%.
L'AFD donc à 20%, la CDU à 29% et donc les sociaux-démocrates qui étaient aux affaires jusque-là tombent à 16%. Que reste-t-il du SPD ? Julien Chavannes, vous êtes au quartier général justement du Parti social-démocrate à Berlin. À quoi est attribué le fait que Olaf Scholz doive maintenant quitter la chancellerie ? Mais avant cela, bien évidemment, une humeur plutôt en berne ce soir.
Oui, j'aimerais vous raconter le moment où les résultats sont tombés. On a fait plusieurs soirées électorales, Philippe, vous le savez, et souvent ce sont soit des cris de joie, soit des manifestations de déception. Et là, ce qui était marquant, c'était le silence total à la tombée des résultats, comme si on avait coupé le son ici au siège du SPD. Les militants, les sympathisants s'y attendaient, mais la douche a été glacial. Ce score, énorme revers pour le SPD. Et puis double peine avec le score historique de l'AFD. Il a donc été difficile de trouver des gens ici motivés pour répondre au micro. J'ai pu toutefois convaincre cette militante dépitée.
Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, c'est dans tous les cas mauvais pour l'Europe. Car l'Allemagne aurait dû être un élément sûr pour l'Europe. On verra ce qui se passe. Ce sont les premiers chiffres, on verra.
Alors ça, c'est le constat, Julien Chavannes. Les raisons qui expliquent cet échec, qu'en dit-on ?
Alors, Oui, Olaf Scholz n'a en fait eu à aucun moment la main sur cette campagne. Ces élections, il ne les voulait pas. Les sujets de campagne, vous en parliez, eh bien, ils ont été imposés. L'immigration après les attaques menées par des étrangers, la crise économique hein, qui a plombé le bilan du chancelier sortant, et puis les ingérences venues des États-Unis. Alors reste maintenant les négociations pour le futur gouvernement. Sans que cela n'emballe hein, les militants ici, ils ne font pas confiance une seconde à Friedrich Merz pour faire face à l'AFD. Olaf Scholz, lui, a quitté la scène tout à l'heure après un court discours. Il laisse la main pour les prochaines négociations, sans dire ce qu'il comptait faire pour la suite.
Julien Chavanne, au quartier général du SPD à Berlin. Vous écoutez Radio France Internationale.
Édition spéciale, élections allemandes.
Et maintenant, dans le système parlementaire allemand, il pourrait se passer des semaines, voire des mois, avant qu'un nouveau gouvernement ne voie le jour. Ça veut dire que ce soir, il y a plus de questions que de réponses, une période d'instabilité qui s'ouvre, Paul Maurice ?
Alors, il y a une certitude, c'est que la CDU est arrivée en tête, et donc Friedrich Merz sera le prochain chancelier allemand. L'autre question, c'est quand, et la deuxième question, c'est avec qui. Quand, ça dépendra de avec qui, puisqu'aujourd'hui, on a deux partis qui sont à la limite d'entrée ou de sortir du Parlement. Les libéraux-démocrates du FDP, qui étaient au gouvernement avec Olaf Scholz, et le parti de gauche radicale populiste de Sarah Wagenknecht. Si ces deux partis rentrent au Parlement, eh bien, mathématiquement, le nombre de sièges répartis pour les chrétiens démocrates et sociaux-démocrates va baisser. On va re-répartir les sièges en fonction des sept partis qui seraient présents. Et donc, il n'y aurait plus de majorité possible avec deux partis seulement. Ce qu'espérait Friedrich Merz, il espérait une coalition entre son parti et les sociaux-démocrates d'Olaf Scholz, sans Olaf Scholz. Ça irait plus vite pour négocier et on aurait effectivement une coalition possible à Pâques, comme l'a dit Pascal Thibault, selon le souhait de Friedrich Merz. Si on a sept partis, on va devoir négocier à trois. Négocier à trois, c'est compliqué, à la fois sur la forme, mais aussi sur le fond et sur l'idéologie. Et là, on ne sait pas jusque quand peuvent durer ces négociations.
En tout cas, la CDU exclut une alliance avec l'AFD, même s'il y a eu ce flirt parlementaire durant la campagne autour des questions d'immigration.
Il y a eu un flirt. Alors, est-ce que c'est un flirt ou est-ce que Friedrich Merz a joué avec le feu pour reprendre la main dans une campagne qui lui échappait en partie? On voit que les électeurs n'y ont pas forcément tenu rigueur puisqu'il est à peu près au même stade que ce qu'il était mesuré dans les sondages à ce moment-là. Il ne gouvernera pas avec l'AFD, il l'a redit très clairement, il a même qualifié certaines personnes du parti de Mme Weidel de nazis, puisqu'ils ont été condamnés par la justice pour avoir tenu des propos interdits en Allemagne, qui sont des propos du Troisième Reich.
Élargissons la portée de ce résultat à l'Europe. L'Europe qui attend beaucoup de l'Allemagne, elle attend une nouvelle impulsion. D'ailleurs, Friedrich Merz veut que son pays ait à nouveau une voix forte dans le concert européen.
Effectivement, il l'a dit à plusieurs reprises, et cette voix forte, elle passe aussi par une relation franco-allemande renforcée. Il reproche beaucoup à Olaf Scholz de ne pas avoir fait assez et de ne pas avoir mis assez d'affect. Ce que lui ferait, parce qu'il est effectivement plus francophile, il a une culture politique issue de la démocratie chrétienne, de Helmut Kohl, si vous voulez, qui pourrait le rapprocher de la France. Et puis, il a donné quelques signaux favorables à l'Europe, à la France, avec l'ouverture sur la technologie nucléaire, par exemple, pour répondre aux enjeux énergétiques de l'industrie allemande, et aussi sur la question de la défense. On a vu son appel du pied aux Britanniques ainsi qu'aux Français pour la question de la bombe nucléaire, de la protection nucléaire, à un moment où les États-Unis sont moins un partenaire qu'avant pour l'Allemagne, ou un partenaire beaucoup moins fiable.
Alors, ce qui nous amène à l'Ukraine, hein, ces législatives anticipées viennent d'avoir lieu à la veille du troisième anniversaire de l'invasion russe en Ukraine. Ce qui avait été vécu comme un choc en Allemagne, hein, le conflit a mis fin à son approvisionnement en gaz russe et le pays a accueilli plus d'un million d'Ukrainiens.
Effectivement, et à un moment où l'Allemagne s'est sentie touchée par cette guerre en Ukraine à proximité de son territoire. Friedrich Merz est très clair là-dessus, il veut un soutien inconditionnel à l'Ukraine. Ça posera des problèmes budgétaires, ça posera des problèmes de mise en œuvre, puisque l'armée allemande n'est pas opérationnelle, mais sur la livraison des armes, il reste très favorable, notamment pour les taurus, sans expliquer d'ailleurs comment il ferait. Et puis, il s'est dit ouvert à une européanisation de l'endettement pour les questions de défense, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau, puisque les chrétiens démocrates, d'une part, sont souvent opposés à cela, même si Angela Merkel l'avait fait en cas de crise pour la crise de Covid, et puis Olaf Scholz, jusque-là, s'y était parfaitement opposé. Donc, on pourrait avoir une avancée européenne sur cette thématique, mais tout dépendra aussi de l'action du président américain.
Et avec une reconstitution de ce fameux couple franco-allemand, puisque Merz, comme Emmanuel Macron, ne veut pas que la paix soit réglée dans le dos de l'Europe.
Tout à fait. Et je pense que dans les deux cas, avec des chrétiens démocrates très atlantistes, ce sera aussi un vrai partenaire de négociation pour Donald Trump. Ce ne sont pas les sociaux-démocrates complètement opposés aux États-Unis, mais Merz est assez proche de Trump. En tout cas, il l'a dit au moment où celui-ci a été élu.
Merci pour ces analyses et commentaires. Paul Meurice, secrétaire général du comité d'études des relations franco-allemandes à l'IFRI. Dans 30 secondes sur Radio France Internationale, l'actualité en Afrique.